Merci, merci beaucoup. Je suis très, très impressionnée d'être là, très, très heureuse aussi. Alors, tout de suite, réagir sur les propos introductifs de votre proviseur. Il a dit trop d'infos tue l'info. Alors, déjà, je dirais, il ne faut pas confondre info et info. Alors, il n'y a pas trop d'infos. Il y a trop de communication. C'est autre chose. On en parlera. Ensuite, il a parlé de censure. Alors, c'est un truc que les journalistes ils détestent, ça, la censure, parce que de toute façon, on écrit et on déteste être, si ce n'est censuré, du moins être relu. Or, vous allez voir quand je vais vous décrire ma journée, que, on passe notre temps à être corrigé, comme vous, vos copies. Moi, ma copie, elle est corrigée 5 fois avant que l'article paraisse. Donc, ça, je vais vous raconter tout ça. Et puis surtout, en fait, Catherine vous a dit que j'étais prof aussi à Assas, mais je suis pas du tout là aujourd'hui pour vous faire un cours, vous faire une leçon, surtout pas vous faire la leçon. Moi, je suis journaliste, je suis venue vous parler de mon métier, je suis venue que vous, surtout pour que vous me posiez des questions sur la manière dont je fais mon métier, dont j'écris, dont je traite l'actualité. C'est pour ça que je suis là. Donc je suis là pour vous informer. Voilà, il y a un des thèmes, c'est information et communication. Alors mon métier, c'est l'info. Tout de suite, je vous le dis, c'est pas la com. Donc on va voir très très vite quelle est la différence. Et je suis sûre que même instinctivement, vous le sentez quand vous lisez. Lorsque l'info, c'est pas du tout cuit et c'est surtout pas du pré-mâché. Un article. Ça prend 1 minute à lire, ça prend 5 heures à écrire pour un article de quotidien. Minimum. Quand je dis 5 heures, c'est ma journée de boulot. Donc, et vous le lisez en 30 secondes, parce qu'à la limite, vous allez lire l'accroche, on va voir tout à l'heure, zapper un petit peu le milieu et lire la fin. Donc, le journalisme, c'est aussi une épreuve d'humilité. C'est-à-dire que le classement d'un journal, c'est ce qu'on appelle le classement vertical. C'est-à-dire vous le lisez, puis vous le mettez à la poubelle. Donc votre travail, il est totalement fugitif. Il s'en va. Il faut que vous soyez transparent. Ça aussi, je vais y revenir. Et surtout, je suis là pour vous, j'allais dire, apprendre à lire. Parce que, rassurez-vous, je ne vais pas prendre mon petit crayon et en disant B-A, bas. Non, ça, je suis sûre, ça, vous savez lire. Mais est-ce que vous savez lire et réfléchir sur ce que vous lisez? J'en suis pas sûre. Ce n'est pas péjoratif et j'ai l'air d'un vieux crouton en vous disant ça, mais je vous assure que pour avoir fait l'expérience moi-même, au début où j'ai commencé mon expérience journalistique, je me suis aperçue que je ne savais pas lire. On ne sait pas lire. Parce que on lit vite, on lit trop vite. Et quelquefois, quand on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire non plus. Parce que l'écriture, c'est pas quelque chose qui va s'apprendre. Il faut aimer écrire pour savoir écrire d'abord. Si vous n'aimez pas ça, vous n'y arrivez pas. Alors il y a des recettes. Je suis capable de vous écrire à peu près tout sur n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a des tics, il y a des recettes. Mais si vous n'aimez pas ça, vous n'y arrivez pas. En vrai, on ne s'invente pas journaliste, on ne s'invente pas écrivain. Et pourquoi je vais vous apprendre à lire pour vous apprendre à réfléchir? C'est qu'il faut que vous réagissiez. Il faut être actif, il faut être proactif. Il ne faut pas vous laisser gaver comme des oies tous les jours par de l'info qu'on vous assène toute la journée, par les mots les 4-5 mots qu'il y a sur Twitter, par les infos télé rabâchées, par. Il faut arrêter ça. Vous n'êtes pas des oies, vous n'êtes pas du bétail, vous n'êtes pas des moutons à suivre tout le temps. Donc, moi, mon job aujourd'hui, ça va. De vous faire réagir sur l'info. À la limite, je vais être provocante des fois, comme je viens de l'être, parce qu'il faut Mais réveillez-vous un peu, quoi. Vous êtes jeune, moi je suis vieille, mais vous, vous êtes jeune, il faut que vous vous réveilliez, il faut que vous réagissiez. Alors là, déjà, vous, vous êtes en train de digérer et vous êtes là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter, c'est pas possible. Alors, il faut vous méfier, alors il y a un prof de philo, des vérités vraies, alors, une magnifique tautologie. Il n'y a pas de vérité vraie, et d'abord, il faut que vous, en réfléchissant, vous vous posiez toujours des questions et surtout que vous doutiez toujours. Le doute, c'est génial. C'est l'essence de mon métier, le doute. Si je ne doute pas de ce qu'on me dit et de ce que j'écris, vous, vous n'avez pas l'info. Alors on dit oui, les journalistes, ils sont cyniques, etc. Non, le doute, c'est mon métier. Il faut tout le temps se remettre en question, tout le temps, sur le respect des personnes que vous interviewez, sur le respect de la vie privée, mais surtout aussi douter de ce qu'on vous dit. Si vous ne doutez pas de ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas journaliste, vous faites de la com. Ce n'est pas péjoratif du tout pour la com, parce qu'on a besoin de communicants, surtout aujourd'hui. Mais ce n'est pas de l'information. Voilà. Et pour moi, ce que je voulais vous dire en fin de cette introduction, c'est que il faut être curieux, parce que la curiosité, mais sinon j'aurais pas choisi in fine de faire ce métier, la curiosité c'est l'ouverture, c'est l'intelligence, c'est la vie, quoi. Ça, c'est, il n'y a que comme ça qu'on arrive à s'inscrire dans un fil social. Alors, j'ai décidé de vous parler autour de deux sujets, de deux parties essentielles. La première, ça va être un petit peu théorique, c'est comment je travaille, ma journée de travail, comment j'écris, à partir de quelles sources, c'est quoi un article, etc. Et deuxième partie, le sujet purement de cette conférence, c'est communication et information. Et vous allez voir, on va faire des allers-retours en ces deux parties parce que les deux fonctionnent ensemble. Alors, comment travaille-t-on dans la presse ? Alors, vous avez tous, là il y a différentes, il y a des quotidiens, il n'y a pas d'hebdo. Dans ces quotidiens, il y a déjà plusieurs sortes de quotidiens. Vous avez la presse nationale, la PQR, Sud-Ouest, la PQR c'est la presse quotidienne régionale, et vous avez des journaux professionnels, en bas je ne vois pas ce que c'est, et courrier international si c'est un hebdo. Le journal
Pays-Bas.
Très important. Et vous avez ensuite les hebdos, vous avez ensuite la TV et la radio, tout ça, je passe très vite. Vous avez ensuite Internet. Alors, Internet. Internet et la presse. Internet, ça a totalement bouleversé notre rôle, totalement, et notre manière de travailler. En bien ou en mal, ça dépend de la manière dont on, sur quel support on est. D'abord, Internet, c'est tellement riche, vous avez maintenant des journaux purement Internet, vous avez Bakshish, vous avez Mediapart. Ça, c'est de l'info, c'est du journal. Alors, Internet a un avantage pour nous, journalistes, surtout pour nous, journalistes presse écrite, mais comme TV et radio. Là, aujourd'hui, c'est génial, je vais pouvoir vous parler pendant au moins trois quarts d'heure. Pour moi, c'est Byzance, parce qu'un article, c'est, aujourd'hui, j'en ai fait un, 55 lignes. 55 lignes, c'est deux pages dactylographiées, même pas une page dactylographiée. Donc, on est toujours contraint. Et Internet a ça d'extraordinaire, c'est que vous n'avez pas de contrainte de taille. Vous pouvez écrire et écrire et écrire et écrire et écrire et écrire, c'est sans fin. Bon, maintenant, à vous, en tant que lecteur, de faire la différence entre ce qui est purement com et ce qui est véritablement info. C'est pour ça que Internet ne peut pas être votre média de base. Ça, c'est clair. Personne ne le prend comme un média de base, Internet. Ça ne peut pas être une information de base. parce que ce n'est pas vérifié, vous ne savez pas qui écrit, et ça, c'est le plus important. Quand vous lisez un article, savoir dans quel journal, si vous lisez un article politique, vous savez très bien, certains d'entre vous l'ont fait, on me l'a dit, que l'article sur le discours de Nicolas Sarkozy ne sera sûrement pas écrit de la même manière dans le Figaro, dans Libé, dans La Croix et dans Le Monde. Ça ne va pas du tout être écrit de la même manière. Or, sur Internet, vous ne savez pas qui écrit. Donc, on peut vous faire croire n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et ça, c'est très dangereux. Donc, sachez toujours, comme d'où tu me parles, sachez toujours d'où vous lisez. D'où on vous écrit. Ça, c'est le plus important. Pour ne pas être gavé comme des oies. Ayez le choix, déjà, dans votre média. Alors, tout à l'heure, on a parlé trop d'infos, tue l'info. Donc, Internet, c'est ça. On a l'impression d'une masse d'infos qui se déverse tout d'un coup, d'être dans la caverne d'Ali Baba. Et en fait, on se rend compte que c'est vide. Sonner là-dessus, là, ça sonne vide. Il n'y a rien derrière. Ou alors des trucs hyper dangereux. Donc, à moins d'avoir, j'ai utilisé un mot anglais, le background nécessaire, la connaissance suffisante pour aller chercher. Moi, je me sers d'Internet, effectivement. Mais j'ai 15 ans d'expérience professionnelle derrière moi et 15 ans d'études. Donc, je sais où chercher, je sais quoi chercher et je sais quand on me balade. Mais vous, pas encore. Donc, c'est là où c'est dangereux. C'est là où vous pouvez être manipulé. La communication, l'information, c'est un outil formidable. L'information, c'est un outil formidable, mais c'est un outil dangereux aussi. Il y a d'autres conférences sur la propagande. C'est pas très loin aussi. Il faut vous méfier de ça. Et alors, quant à Twitter, alors là, c'est ma bête noire. Twitter, c'est soi-disant de l'info en 5 mots. Où elle est, l'info? C'est pas de l'info, ça, c'est de la com. L'info, c'est de l'analyse. C'est vous amener à réfléchir. C'est vous amener à voir plus tard. C'est pas de l'info. C'est ce que vous voulez, mais c'est pas de l'info. Et les journalistes commencent, il y a des charges, je sais que vous avez travaillé dessus, j'ai pu, certains médias commencent à interdire à leurs journalistes d'être sur Twitter ou sur Facebook, parce que, et ça on va le voir dans la manière de travailler, et surtout dans la seconde partie de mon intervention, c'est qu'un journaliste doit être transparent. L'information, vous devez la prendre et la redonner. Si vous n'êtes pas transparent, d'ailleurs via Twitter, vous n'êtes pas transparent, via Facebook, vous n'êtes pas transparent. Parce que vous représentez quelque chose et vous donnez une opinion. L'information, ce n'est pas donner une opinion. On va le voir tout de suite dans la manière dont on écrit. Les différentes formes d'écriture. L'écriture, vous avez l'article. Bon, l'article, c'est le papier qui est en une, à l'intérieur, c'est la news. Vous avez l'interview, c'est questions-réponses. Vous avez le portrait, où on va parler d'une personne, le décrire. Et vous avez l'enquête et le reportage. Toutes ces catégories d'écriture journalistique sont basées sur à peu près la même structure. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme structure? Vous avez généralement, je vais vous montrer, ça sera peut-être plus simple. Vous remarquez toutes ici, toutes les unes se ressemblent à peu près. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle la manchette, c'est la première, c'est la une. Et puis après, vous avez la 1, 2, la 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, manchette, 1, 2, 1, 3. À chaque fois, c'est la même chose. Vous avez ensuite, alors ça se voit moins, ça se verrait mieux à l'intérieur, mais on va considérer ça. On peut l'ouvrir ? Non, mais je vais leur montrer là. Alors, On va prendre. Je vais essayer de prendre. Essayez de vous prendre un truc qui est plus facile à. Voilà. Donc, vous avez le titre systématiquement dans tous les papiers. Regardez, dans tous les papiers, vous avez la même structure, de la manière dont c'est présenté. Ça peut être plus ou moins gras, plus ou moins clair, mais systématiquement, c'est la même chose. Vous avez le titre. Vous avez ce qu'on appelle un chapeau. Ça, c'est un chapeau qu'on écrit dans une orthographe merveilleuse. C'est H-A-P-O, accent circonflexe. Et vous avez ensuite l'article. Alors après, on détaillera l'article. Le chapeau, ce n'est jamais l'introduction à votre papier. Le chapeau, c'est « je lis pour savoir si l'article va m'intéresser ». C'est les deux, trois idées qui vont être développées à l'intérieur, qui vont vous donner envie de lire. Après, donc, première porte. Vous avez plusieurs portes d'entrée. Première porte, le titre. Gianni Letta, Le Guéant de Silvio Berlusconi. Alors déjà, si vous ne connaissez pas Guéant, vous n'avez pas envie d'y aller. Et si vous ne connaissez pas Silvio Berlusconi, vous connaissez peut-être Berlusconi, mais Guéant, peut-être moins. Bon, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Bon, c'est sûr que les échos, ça s'intéresse, c'est dans les catégories de lecteurs, c'est CSP++. Donc, a priori, ils savent qui est Guéant. Donc, chaque titre aussi est fonction du canard. Quand vous avez un canard pendant Le Parisien, ils n'auraient jamais titré comme ça. Parce que leur lectorat, leur lecteur ne sait pas forcément qui est Guéant. Encore une fois, ce n'est pas péjoratif. Il faut savoir pour qui on écrit et de la manière dont on écrit. Donc, ils auraient titré le Gianni Letta, le conseiller privilégié de Silvio Berlusconi. Et ensuite, dans l'article, ils auraient expliqué que Sarkozy a un conseiller privilégié qui est le secrétaire général de l'Élysée qui s'appelle Guéant, etc. Mais ils n'auraient pas titré comme ça. Donc, première porte d'entrée, le titre. J'ai envie de lire, j'ai pas envie de lire. Oh, tiens, ça m'intéresse. Deuxième entrée, le chapeau. J'ai envie de lire, j'ai pas envie de lire. Oui, j'ai envie de lire. Troisième entrée, et c'est là où on va aller jusqu'au bout, c'est le début de l'article. En fait, au début de l'article, c'est ce qu'on appelle l'accroche. Et c'est un nom prédestiné. C'est-à-dire, l'image est vraie. L'accroche, c'est l'hameçon que le journaliste lance pour que le lecteur l'attrape et l'amener à l'intérieur de son article. En lui disant, je t'assure, ce que je vais raconter, c'est super, viens. Et il le prend par le cou, il l'amène dans son article par une technique journalistique. Et ça, c'est pour ça que les deux, trois premières phrases d'un article sont essentielles. C'est ce qui va vous donner. Faites l'expérience, prenez n'importe quel canard, faites l'expérience. Les deux, trois premières phrases vont vous donner envie de lire ou pas et vont vous faire croire à ce qui est dit ou pas. À la télé, on appelle ça le TCI, le taux de crédibilité immédiat. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, et là je me rassois pour vous expliquer ça, que la manière dont le quart de seconde où vous apparaissez, où le journaliste apparaît à l'écran, fait la crédibilité, fait que les gens vont vous écouter et vont croire ce que vous dites. Or, ce taux de crédibilité immédiat, si vous êtes comme ça, il est nul, voire il est à moins 36 000. Si vous êtes comme ça, si je suis comme ça et que je regarde la caméra qui est là, les gens, ils vont m'écouter là. Si je te regarde dans les yeux, tu vas m'écouter. Si je me penche vers toi, tu m'écoutes. C'est ça le taux de crédibilité immédiat. Tu m'écoutes, donc tu entends ce que je dis, donc tu me crois. C'est le taux de crédibilité immédiat. Donc cette accroche, comment on la construit généralement ? On la construit, il faut qu'elle soit rapide à lire. Il faut qu'elle frappe le lecteur. Donc généralement, c'est deux mots ou une succession de mots avec deux points. Ça va être ta 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 ta, paf, deux points, voilà ce qu'il faut lire. Donc laissez-vous accrocher, mais lisez ensuite ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, vous avez le développement à l'intérieur de l'article. Et vous avez la chute. Alors, comment se fait ce développement ? Je vous parlerai tout à l'heure, vous inquiétez pas, après la partie théorique, j'ai une partie exemple, c'est un peu plus vivant. À l'intérieur de cet article, c'est toujours fondé, il faut qu'un article soit balancé. Je vous ai dit tout à l'heure, et je vais vous le répéter au moins 50 fois au cours de cet exposé, un journaliste doit être transparent. Donc, on ne demande pas à un journaliste de donner son opinion. On lui demande de donner de l'info. Donc, un article doit être balancé, donc comme une balance, il doit être thèse, antithèse. Simplement, cette thèse, antithèse, elle n'est pas forcément la même partout. Si vous prenez un article, encore une fois, je vais prendre la politique parce que c'est ce qu'il y a de plus topique, la thèse du Figaro, c'est sûrement pas la thèse de Libé, et inversement, vous allez trouver des articles totalement inversés dans Libé et dans le Figaro. Pourquoi ? Parce que il y a eu 36 000 études faites là-dessus. Un quotidien, pour ceux qui les lisent, heureusement il en reste encore assez pour que je sois payée, c'est 2 minutes de lecture. Or, si vous lisez Les Échos, si vous lisez Libé ou Le Figaro, c'est, si vous décidez de lire, ou Le Monde, si vous décidez de le lire de la première à la dernière page, c'est 8 heures de lecture non-stop. Qui passe 8 heures à lire le journal ? Personne. La lecture du journal, c'est entre 5 et 7 minutes. 5 et 7 minutes. Donc, il faut que, non seulement vous accrochiez le lecteur pour lui dire, mais qu'en plus, vous lui présentiez l'info d'une certaine manière qui fait qu'il ait envie de revenir le lendemain vous lire. Parce que quelque part, il correspond à ce que vous croyez, à ce que vous êtes et à ce que vous représentez. Autre chose très importante dans la vie du journaliste, et là on va aborder la journée, c'est l'espace-temps et la gestion du temps. C'est une donnée fondamentale. Et c'est pour ça aussi qu'Internet a totalement bouleversé. Déjà, on va prendre mon expérience, après on verra les autres. Dans un quotidien, presse écrite, il y a des confrères ici, c'est très simple, la journée d'un quotidien, c'est rythmé par 2 conférences de rédaction, généralement, 2 grandes conférences, et puis ensuite, il y a les conférences de une. Alors, on arrive le matin vers 9h, ça commence pas tôt parce que ça se termine tard. Donc on arrive vers 9h, notre première conférence Nouveaux Échos, elle est à 10h du matin. Donc entre 9h et 10h, premier réflexe du journaliste, il arrive, il ouvre son ordinateur, il se branche sur l'AFP, pas sur Twitter, sur l'AFP, Reuters, Bloomberg aux Échos. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit ? Alors, généralement, la veille, vous avez un agenda, hein ? Vous savez ce qui va se passer, etc. Mais il peut y avoir aussi des choses qui sont passées dans la nuit, etc. Donc, premier réflexe du journaliste, ouvrir son ordinateur, consulter les dépêches. Ensuite, vous construisez ce qu'on appelle un menu. Un menu, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans mes pages. Ensuite, conférence de rédaction. C'est généralement chez nous le chef de service qui y va et qui explique ça. Bon. Alors, certains sujets sont retoqués. On n'en discute pas beaucoup parce que, généralement dans les journaux, on n'aime pas tellement les conférences de rédaction. C'est le passage un peu obligé. Le chef de service revient et on se lance dans notre article. Donc, il est 11h. Et un article, une page, ça doit être bouclé pour 18h. Par exemple, hier, vous avez peut-être entendu parler du procès Zacharias. Je ne sais pas si c'est donc un ex-chef d'entreprise qui est parti avec un petit peu de sous de son entreprise. Un petit peu, pour ses vieux jours. Entre 12 et 15 millions d'euros. Et là, il est accusé d'abus de biens sociaux. Et il est devant le tribunal de Nanterre. Donc, ça, je savais très bien que la première audience, c'était hier. Donc, j'avais annoncé, j'étais à la conf le matin. Mais mon papier, je l'ai envoyé qu'à 18h parce que ça se terminait à 17h. Et donc là, on rentre dans une autre gestion du temps, c'est-à-dire que mes 55 lignes, j'ai écouté pendant toute la journée jusqu'à 17h, ça commençait à 9h30 jusqu'à 17h. Et de 17h à 18h, il fallait qu'à 18h, mon papier il soit parti. Donc j'ai une heure pour écrire. Donc c'est là où les tics ou le réflexe journalistique est le plus vivace, mais va vous aider à structurer votre article, à faire un plan, et vous savez très bien comment vous allez le faire. Ça va vous aider, c'est un squelette, ça va vous aider à le maintenir. Donc, les deux conférences, la conférence de l'après-midi va permettre d'affiner, c'est-à-dire que à peu près de 11h à 13h, l'heure à peu près où tout le monde part déjeuner, on va passer les coups de fil, vérifier les informations, ça en continue aussi, mais il se peut qu'un des sujets qu'on ait annoncé le matin tombe, c'est-à-dire, bon non, finalement c'est pas intéressant, non il a rien à dire, non j'ai pas pu vérifier, ou des choses comme ça. Donc à 13h, enfin à 15h, on affine, on sait où ça va. Il y a eu la maquette faite entre-temps, c'est-à-dire la maquette, c'est le journal vide, mais avec des blancs qu'il faut remplir. D'accord ? Donc, une fois que vous avez dit oui à midi, au moment où il y a ce qu'on appelle l'implantation, c'est-à-dire que le matin à 11h, vous avez annoncé vos papiers. Vous avez affiné autour de midi, et à midi, les secrétaires de rédaction, un secrétaire de rédaction, c'est celui qui va mettre en page un personnage essentiel, ce sont des journalistes aussi, mais qui vont mettre en page vos articles. Donc ceux-là vont prendre, vous avez annoncé 55 lignes, en plus, il faut que vous annonciez la longueur. Donc inutile de partir en disant je vais faire 30 lignes et d'en arriver 60, ça ne tiendra pas. Ou de dire je vais faire 60 lignes et d'arriver avec 30 lignes, là vous avez un blanc. Donc c'est pas possible, c'est à moins de votre photo en maillot de bain sur la plage ou la photo de la tante Louise, ça marche pas. Donc il faut remplir. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez sûr de vos infos. Donc à 15h, on a l'implante. On sait où on va aller, comment on va écrire et on va rentrer dans des cases. Il faut rentrer dans des cases. À la télé, c'est la même chose. À la télé, ou à la radio, c'est la même chose. Ils ont une minute, deux minutes, 30 secondes. C'est minuté. Nous, on parle en ligne. Eux, ils parlent en minutes. Mais c'est pas genre, je prends mon micro et je vais vous dire ce que je pense. Non. C'est, t'as une minute. Et ça, c'est décidé, comme nous, le matin, en conférence de rédaction. Ça ne s'invente pas au feeling. Du genre, c'est un temps petit reporter, je me mets knickerbockers, j'ai ma houppette et puis j'y vais et je raconte ma vie. Non, tout est structuré, calibré. Et tout va très vite. Tout va très vite. Alors, moins vite de la manière dont vous le lisez ou dont vous l'entendez, mais ça va très vite quand même. Donc, quand vous téléphonez à quelqu'un pour vérifier une information, vous avez intérêt à le trouver, parce que sinon, panique. Vous vivez, un journaliste, ça vit aussi dans le stress. On a une gestion du stress extrême, mais qui est concentrée. Elle est concentrée sur 5 heures. Mais pendant 5 heures, je vous assure que des fois, vous avez une espèce de boule à l'estomac, parce que vous avez une page à remplir et vous n'avez pas le début d'une info. Vous ne pouvez pas l'inventer, l'info. Donc, il faut vraiment que vous vérifiez, que vous passiez 36 000 coups de fil pour souvent, des personnes qui sont interviewées aussi et qui sont citées dans des articles disent « Mais franchement, je vous ai parlé une demi-heure, vous m'avez mis qu'une phrase dans l'article, mais c'est quand même, vous moquez du monde !» Mais parce que nous, on avait besoin de cette phrase-là. Ce qu'il nous a raconté pendant une demi-heure, on n'en avait rien à faire. Simplement, on avait besoin de cette phrase-là pour alimenter notre article. Et c'était la seule qui pouvait dire quelque chose dans l'article. Autre chose aussi, et ça, on va y revenir tout à l'heure, surtout dans la deuxième partie. c'est l'importance de la mémoire. Parce que si vous commencez à faire votre papier en disant, ben justement, tiens, je vais aller consulter l'encyclopédie, je vais aller regarder sur Internet, je vais aller, ça pour savoir un petit peu ce que je vais dire, etc. Vous avez intérêt à maîtriser votre sujet. Si vous ne maîtrisez pas le sujet, mais vous allez raconter des histoires, vous allez vous faire manipuler par les personnes que vous interviewez. Donc, il faut absolument maîtriser le sujet. Et surtout, pour défendre une thèse et une synthèse, il faut simplement rappeler que telle personne, si elle dit ça aujourd'hui, il y a un an, elle disait exactement le contraire. Si tel chiffre, c'est ça aujourd'hui, il y a 6 mois, c'était beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Et ça, il faut que vous vous en souveniez, vous. Il faut que vous le sachiez, vous. Si vous ne le savez pas, si vous ne maîtrisez pas votre matière, si vous n'avez pas la mémoire des événements, vous ferez un mauvais papier. Alors, pour illustrer un peu tout ce que je viens de vous raconter, j'ai envie de vous raconter un peu mon expérience au procès Clearstream. Alors, donc, aujourd'hui, aux Échos, je suis grand reporter, c'est-à-dire le grand reporter, c'est une personne qui fait des enquêtes, qui fait des reportages, c'est le journaliste qu'on envoie sur tous les coups un peu chauds, parce que c'est celui qui a un tout petit peu de bouteille, donc on sait qu'il ne va pas nous planter. Voilà. Et donc, j'ai suivi Clearstream pendant 5 semaines. Alors, 5 semaines, c'est épuisant, parce que ça veut dire que pendant 5 semaines, alors, vous vivez avec les prévenus, vous vivez avec la défense, vous vivez avec les avocats, vous vivez avec les juges, vous vivez avec vos confrères. Et votre monde, pendant 5 semaines, se réduit à ça. Et c'est là où il faut faire très attention à la manipulation et garder un regard objectif sur les faits. Parce que tout le monde cherche à vous influencer, et vous-même, vous êtes influencé par ce qu'on vous raconte, mais ça, on vous a appris, mais aussi par vos confrères. Parce que comment ça se passait après Clearstream? Vous avez une journée d'audience épuisante, et puis vous avez pas, c'est pas des petits rigolos qui sont en face de vous, là, c'est pas le voleur de mobilettes, c'est un ancien ministre, un ancien premier ministre, un mec qui travaille au service secret, un espèce de fou manipulateur, informaticien, un autre journaliste écrivain, et puis encore un informaticien, mais lui, on l'a pas entendu. Mais donc, et par rapport à ça, avec des avocats qui sont des ténors du barreau, c'est les meilleurs dans leur boulot, les meilleurs. Donc, c'est quoi mon job quand je suis là-bas? D'abord, première chose, la presse, elle est reléguée sur deux... On est en bande, comme les sardines. Donc, hop, la presse relayée sur deux bancs. Donc, forcément, on se parle comme vous. Mais tu penses quoi de ça, et quoi de ça, et quoi de ça? Donc, premier danger, c'est d'être influencé par ses petits copains. Ces petits copains qu'on va retrouver le soir après l'audience, parce que l'audience, ça va se terminer à 7h, à 8h. Alors, je ne vous raconte pas l'exercice, quand même, d'aller faire un papier, sortir de l'audience, parce que vous bouclez à 18h ou 19h. Boucler, ça veut dire que vous êtes obligé d'envoyer votre papier. Sortir de l'audience à 18h ou 19h, raconter une journée qui n'est pas encore terminée, où il risque encore de se produire des choses, c'est quand même assez sportif. Donc, généralement, vous faites un papier en disant... Je vais le reprendre. Alors, ça veut dire quoi? Je vais le reprendre. C'est-à-dire, vous l'envoyez comme ça aux premières éditions. Et après, à 10h, à 11h, je vous réécrirai une autre version qui sera dans la deuxième édition du journal. Donc ça, premier influence. Le soir, vous les retrouvez dans la salle de presse. Parce que maintenant, tous les tribunaux, depuis Outreau et procès d'Agen aussi, font une sorte de salle de presse. Donc on nous cantonne dans un coin, on nous cantonne sur deux bancs, on nous cantonne dans un coin, surtout qu'on puisse pas trop aller parler à trop de monde. Et dans la salle de presse, c'est pareil. On est à une petite dizaine, et un correspondant de Sud-Ouest que je connais bien, on était sous ça, parce qu'en plus on se connaît, parce qu'en plus on fait partie de la même association de la presse judiciaire, etc. Donc, on se parle. D'abord, il faut que vous sachiez que les journalistes se parlent. Même, vous vous dites, ah mais un journaliste de Libé, il ne va pas parler à un journaliste du Figaro. Ben si, parce que souvent aussi, alors Libé, Figaro, peut-être pas, mais Le Monde, Libé, Le Figaro, on tourne. Ce sont les mêmes que vous allez retrouver à différents postes. Donc, quand ils écrivent à Libé, ils écrivent à Libé. Mais quand ils écrivent au Figaro, ils écrivent au Figaro. Mais vous retrouvez ces gens-là. On tourne. On se connaît tous. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir, si un jour vous êtes de l'autre côté de la barrière et vous êtes interviewé par un journaliste, que dire à un journaliste du mal de ses confrères, vous avez une chance sur deux de vous planter parce qu'il a une chance sur deux d'être un petit copain, parce qu'on se connaît, on a fait nos études ensemble, ou on fréquente les mêmes associations, on fréquente le même monde. Donc, danger. Donc, Clearstream. Alors, on arrive le matin, et alors donc, pendant toute la journée, vous allez devoir non seulement écouter, mais regarder. Parce que un procès, une salle d'audience, il n'y a pas plus humain qu'une salle d'audience. Ce n'est pas seulement les mots qui sont importants. C'est les gestes. C'est l'éthique. C'est la manière dont le juge va regarder, dont le juge va se gratter le nez. On avait remarqué, quand il y avait un témoignage qui commençait à l'énerver, il commençait à se gratter le nez. Il disait, oula. Voilà. Quand Villepin, à un moment donné, le lendemain, alors vous n'avez pas suivi peut-être tous les jours, mais le lendemain, il y a eu un lendemain où il y avait premier faux pas pour Villepin, etc. Eh bien, Villepin, en fait, qu'est-ce qu'il avait simplement fait ce jour-là? Il avait parlé. Et à ce moment-là, il y avait le général Rondeau qui lui apportait la première contradiction. Et Villepin, qui était tout le temps droit comme ça, comme un i, visage fermé, erratique comme ça, hein. Pour la première fois, il a sorti un mouchoir et essuyé le front. Simplement ça. Et on s'est tous dit, il ment. Donc, c'était simplement, il faut regarder, analyser, et il faut falloir ensuite, quand vous allez écrire votre article, il faut que vous fassiez rentrer le lecteur dans la salle d'audience. Il faut qu'il soit avec vous, le lecteur. Il faut qu'il comprenne ce qui s'est passé, pourquoi vous lui écrivez ça. Ça, c'est le plus important. Alors, comment être objectif quand vous avez, dans un procès comme Clearstream, des gens dont le métier, c'est de vous convaincre? Là, vous aviez un concentré de gens dont le métier, c'est de convaincre. Vous aviez des politiques et des avocats. La pire espèce, c'est une horreur. Leur métier, c'est de vous raconter des choses et de vous dire ce que je te dis, là, c'est vrai, c'est du béton, tu peux y aller. Le problème, c'est que nous, on n'est pas censé les croire. Il ne faut surtout pas qu'on les croie. Parce que sinon, dans un procès surtout, généralement, c'est les parties civiles. Donc, en gros, c'est l'accusation qui commence. Alors, vous me dites, bah oui, ça, il est coupable. Mais si vous faites votre papier là-dessus, le lendemain, c'est la défense, on va dire, bah non, il est innocent. Donc, il faut savoir, à chaque fois, prendre du recul et de dire, voilà son système de défense, il est comme ça, il cherche à nous démontrer ça parce qu'il veut... Il ne veut pas rentrer dans le jeu des parties civiles qui cherchent à lui mettre ça sur le dos, etc. Donc là, pour ça, c'est important. Alors, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête peut-être déjà sur la pratique? Je ne sais pas quel est le système, si on fait exposé et ensuite question-réponse, mais est-ce que déjà sur la pratique, sur le déroulement d'une journée, est-ce que vous voulez me poser des questions ou pas?
Qu'est-ce que vous en pensez? Levez la main. Est-ce qu'on va jusqu'au bout ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause question maintenant sur la manière dont un journaliste produit son information? continuer votre sieste. Ok.
Alors, un journaliste. Mais ceci dit, je m'aperçois qu'il faut que je me presse un peu. Voilà. Ben, on va aller information et communication. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un journaliste, c'est une éponge. C'est-à-dire, c'est une éponge et un filtre. Qu'est-ce que ça fait ? Ça prend l'information, ça prend la communication. Le journaliste, ça prend la communication et ça le transforme en information. C'est une sorte de filtre. Vous absorbez la communication, vous la redonnez en information. Et pour ça, il faut effectivement avoir un petit peu de background et un petit peu de culture. Alors, est-ce que le journaliste est objectif ? Est-ce que le journaliste est indépendant ? C'est effectivement la différence entre information et communication. Je vous ai dit tout à l'heure, on se précipite sur l'AFP. Mais l'AFP, ce n'est pas notre seule source d'information. Notre source d'information, ça va être aussi des conférences de presse et des communiqués de presse. Or, tout à l'heure, je vous ai dit, le politique, il a un message à nous faire passer. Donc, comment on prend ce message ? Et ou l'entreprise, le politique, l'entreprise, tout le monde a un message à nous faire passer. Notre lessive lave plus blanc. Ok, ta lessive lave plus blanc, mais qu'est-ce qui me le prouve ? Donc ça, c'est le premier truc. Je voudrais vous donner plusieurs exemples là de la manière dont on peut construire une communication et dont le journaliste l'apprend. Il y a un terme hyper à la mode en ce moment qui est le storytelling. En gros, raconter des histoires aux journalistes, c'est génial. Voilà. Le storytelling, c'est quoi ? J'ai même un directeur de cabinet d'un ministre dont je dirai le nom qui me dit oh, « Putain, mais il n'arrive pas à exister. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire ?» Bon, tous les matins, on a une réunion storytelling, on n'arrive pas à trouver des idées. Maintenant, la nouvelle mode, c'est le storytelling. En gros, il faut que le politique, l'entreprise vous raconte une histoire et vous fasse rêver sur le parcours, sur ce qu'il pense, etc. Mais en faisant ça, on reste à la surface de la personne ou du produit et on ne va pas voir au fond ce qu'il pense vraiment. Ça permet de faire des effets d'annonce, mais ça ne permet pas de voir ce qui se passe vraiment dans le fond. Donc, storytelling, premièrement, quand on commence à vous raconter, déjà tout petit, vous voulez être ministre, vous avez un gyrophare et vous avez une alarme dans votre tête, vous dites danger. Vous ne suivez plus. Tout de suite, vous décrochez. Ensuite, c'est venu d'où cette histoire ? Tony Blair a construit toute sa campagne là-dessus grâce à un monsieur qui s'appelle Alistair Campbell qui a inventé ça, le storytelling, qui est de raconter aux journalistes des histoires. Et surtout, de les gaver d'infos. Mais comme vous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus suivre. Et c'est là où Internet a aussi mis en danger notre métier. C'est que, au début, par exemple, du quinquennat Sarkozy, on ne connaissait pas son agenda la veille. On l'apprenait le matin et il changeait dans la journée. C'est-à-dire qu'il y avait 5 annonces par jour. Et tout ça, c'est de la mécanique de communication. C'est pas simplement « je veux la rupture », etc. Mais à gauche, chez Golan Royal, elle faisait la même chose. Hein. C'est la nouvelle manière. Donc apprenez aussi à lire ça. C'est-à-dire que je te fournis 5 informations par jour, tu es tellement pressé de la redonner à tes lecteurs que tu n'as plus le temps de l'analyser. Et c'est ça. Ça a été ça pendant 3 ans pour nous. Et je vous ai amené un truc qui est absolument parlant. C'est un sondage fait par TNS Soufresse pour La Croix. Alors, j'ai posé un peu mon micro, là. Je ne sais pas si vous m'entendez au fond. Parce qu'il faut... Ça va ? Regardez la courbe la plus basse, là. C'est l'indépendance des journalistes par les lecteurs. C'est le taux d'indépendance. Je vais vous le faire passer ou je vous l'enverrai à vos profs. Le taux, c'est la perception d'indépendance des journalistes. Ah, mais si, il y a un rétroprojecteur, là, c'est génial. Non ? Ah, bah oui, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas quand c'est pas transparent. Donc, je recommence. Là où le taux est le plus bas sur 5 ans, c'est en janvier 2008. Janvier 2008, c'est moins de 6 mois après l'élection. Or, et c'est le taux le plus bas depuis 93. Depuis 93, ça veut dire simplement que cette histoire de fournir de l'information et de gaver d'informations a détruit aussi dans le public l'image des journalistes. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui, il y a comme un stop. Les journalistes aussi se sont rendus compte qu'ils devenaient dingues, quoi. Aujourd'hui, ils nous détestent, hein, parce qu'on a dit stop. On joue plus. Au début, mais il faut voir aussi, je vous ai décrit notre journée. Quand au départ de la journée, vous avez 5 annonces qui viennent du gouvernement, vous n'allez pas dire à votre rédacteur en chef, « Bon, écoute, non, ça ne m'intéresse pas, je t'en fais qu'une. » Votre rédacteur en chef, il me dit, « Non, tu vas traiter tout l'info. Hein. » Donc, vous faites les 5 trucs dans la journée. Et vous allez vite, comme un hamster dans une roue. Vous tournez. Et ça, effectivement, ça peut marcher. Mais à un moment donné, le hamster, il ne veut plus tourner. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Le hamster, il ne veut plus tourner. Donc, c'est pour ça que ça ne marche plus. On dit Sarkozy a perdu sa magic touch, etc. C'est simplement que les journalistes, ils ne le suivent plus. Ils lui disent, on s'arrête là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Ah si, puis en exemple, pour terminer, parce que quand même on n'a pas la science infuse, je voulais vous raconter mon expérience des élections de 2002. Donc en 2002, élection présidentielle, je vous rappelle Le Pen au deuxième tour. À l'époque, je venais d'arriver aux Échos. Et comme aux Échos, le service société, c'est à l'intérieur du service politique, on me dit, tu vas nous donner un coup de main pour les élections présidentielles. Donc je donne un coup de main, et puis mon chef me dit, tu préfères quoi, l'extrême gauche ou l'extrême droite? Je dis, écoute, je vais prendre l'extrême gauche. L'extrême droite, j'ai fait un mémoire dessus à Sciences Po, donc je connais... Ça m'évitera d'avoir à tout rechercher, etc. Et je commence donc à suivre la campagne de Le Pen. Mais il se passait quelque chose de vraiment très bizarre dans cette campagne. Parce que justement, les journalistes politiques qui suivaient la campagne de Le Pen, à cette époque-là, ils n'ont plus fait la différence entre communication et information. Parce que ce que je voyais, principalement des journalistes télé, sur la manière dont ils percevaient Le Pen... Oh, qu'est-ce qu'il est marrant, c'est un bon client quand même, etc. Et qui rigolait à chacune de ces blagues nauséabondes, vous dites, et tout ça, ça repassait le soir sur TF1. Hein. Agrémenté du petit pépé qui se faisait tuer dans sa maison, etc. Ça. Donc, sur TF1 et sur Antenne 2. Donc, ces journalistes-là ont confondu communication et information. Et ça, il ne faut jamais, jamais, jamais confondre les deux, parce que c'est dangereux. Et je pense que c'est une part de ce qui a fait la présence de Le Pen au second tour. Il faut aussi que nous, on sache faire notre mea culpa, comme au moment de l'affaire Doutreau, on a su aussi dire, on a un peu trop vite crié avec les loups en même temps. Il faut perpétuellement que la presse se remette en cause. Je vous ai dit au départ, il faut que vous doutiez, il faut que nous, on n'oublie jamais que notre métier à nous, c'est le doute, y compris sur la manière dont on exerce ce métier. Voilà, je vous remercie.